Marceau le matin.
Ben non, 7h10, on n'est pas à Beverly Hills parce qu'à la météo, c'est moins 15 à l'heure actuelle, moins 18 avec le refroidissement éolien. Mais au moins, c'est moins 7 au maximum aujourd'hui, généralement nuageux. Moins 4 neiges intermittentes, mais environ 5 cm d'accumulation pour demain. Et moins 1 alternance de soleil et nuages pour jeudi. En attente de notre entrevue avec le tireur d'élite Wally sur la situation au Venezuela et cet enlèvement de Nicolas Maduro, le président, qui est passé devant la cour à New York hier aux États-Unis et qui a clamé son innocence en mentionnant qu'il était toujours le président du Venezuela. Max Larouche, qu'est-ce qu'on doit surveiller d'autre dans l'actualité?
Le SPVQ qui a procédé hier à l'arrestation d'un homme de 36 ans pour possession d'armes et de stupéfiants. Vers 10 heures, un appel pour du désordre à une adresse située sur la rue Lasserre à Loretteville est entré. Et lors de leur intervention, les policiers ont découvert à l'intérieur de la résidence une arme de poing s'apparentant à une arme réelle. En début de soirée, les enquêteurs qui ont procédé à une perquisition qui a permis de saisir environ 20 munitions de calibre 45, deux chargeurs, une arme à air comprimé s'apparentant à une arme à feu, un peu plus de 20 grammes de coke, environ 500 grammes de méthamphétamine, plus de 200 grammes de médicaments d'ordonnance, divers objets liés à la revente de stupéfiants et trois cellulaires. Le suspect qui demeurait détenu devrait comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Sans surprise, Charles Milliard se lancera dans la nouvelle course à la direction du Parti libéral du Québec. Selon Radio-Canada, il doit en faire l'annonce aujourd'hui. Le pharmacien de formation qui a été PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec était arrivé tout juste derrière Pablo Rodriguez lors de la dernière course avec 47,7% des votes au deuxième tour. Dans les dernières semaines, il aurait rallié de nouveaux appuis comprenant des appuis au sein du caucus et de militants qui ne l'avaient pas soutenu auparavant. La course à la chefferie du PLQ qui va débuter officiellement le 12 janvier, les candidatures qui vont fermer le 13 février. Et s'il n'y a pas d'adversaire, ben c'est un couronnement qui demeure possible. Et sinon, le prochain chef sera choisi le 14 mars. Le Parti libéral du Québec qui a aussi décidé de créer un poste de responsable de la conformité et de l'éthique. On est rendu là. L'avocat Julien Morissette qui sera chargé de veiller au respect de la loi électorale, notamment en matière de financement, de sollicitation de contributions et de brownies.
Le Parti libéral qui va tenter de faire oublier ce 6 mois de Pablo Rodriguez, dont le dernier mois très difficile. On va revenir d'ailleurs à l'Assemblée nationale à la fin du mois avec la formule qui avait été gagnante pour le Parti libéral, c'est-à-dire Marc Tanguay comme chef par intérim et Monsef Deragy comme leader parlementaire. Donc on va tenter vraiment de reprendre là, un élan avant soit une course à la chefferie ou un couronnement là, pour Charles Milliard. Mais chose certaine, on va tenter le plus possible de faire oublier ces déboires-là. Ouais. Hey, Pascal, souviens-toi, on en a parlé pendant un mois de Pablo Rodriguez à chaque jour.
Cependant, je pense que c'est quelque chose de bon pour la politique, honnêtement, d'avoir les résultats de l'enquête, de pouvoir en discuter, oui. Tout ça. Très mauvais pour le Parti libéral parce que ça va toujours les remettre au-dessus de l'actualité avec des mauvaises nouvelles. Un peu pour ça qu'on parlait du fait qu'il faudrait peut-être un leader puis on avance. Parce
c'est
que ça pourrait tasser un petit peu tout ça puis qu'on voit un petit peu le futur et non le passé. Puis le présent, là. Sauf que, honnêtement, toute une rentrée à l'Assemblée nationale qui nous attend.
Ah, vraiment, ils leur souhaitaient pas de combat de coq comme on a vécu avec Marois Risky et Pablo Rodriguez.
Pendant ce temps-là, à Ottawa, l'ex-vice-premier ministre du Canada, Chrystia Freeland, va quitter son siège dans les prochaines semaines. Elle qui a été nommée hier conseillère économique de l'Ukraine par le président Volodymyr Zelensky va quitter aussi son poste de représentante spéciale du premier ministre Carney pour la reconstruction de l'Ukraine. Les oppositions qui invitaient assez vivement Mme Freeland à laisser tomber ses fonctions à Ottawa, considérant des apparences de conflit d'intérêts par rapport au fait que son nouveau rôle va consister à promouvoir des investissements d'entreprises canadiennes en Ukraine. Là, elle a été nommée au sein du gouvernement ukrainien, là, ou à peu près, là, si c'est pas officiellement ça, quand tu travailles directement avec Volodymyr Zelensky comme conseillère économique, t'as un peu ça. Pendant ce temps-là, tu restais dans le gouvernement canadien, il y a comme quelque chose qui fonctionnait pas. Fait que il y a une élection partielle qui va devoir se tenir dans les prochains mois dans la circonscription ontarienne de University Rosedale dans un contexte où le gouvernement de Mark Carney est à un petit siège de la majorité présentement. Fait que là, on va tomber à deux sièges de la majorité en attendant la partielle. Mais comme on a fait l'exercice tantôt, là, on a vu que selon les projections, il y a des bonnes chances que les libéraux réussissent à garder ce siège-là.
Exactement. Donc pour Chrystia Freeland, ça sera une fin de carrière politique. politique ici au Canada, carrière politique qui aurait été marquée là, par son volte-face là, lors de la mise à jour économique en décembre 2024.
Surprise ou pas pantoute, les urgences débordent au Québec. Des données de l'Institut national de santé publique montrent que le pic de l'influenza dans la province semble avoir été atteint durant la semaine de Noël. C'était par la presse, la docteure Marie-Maude Couture, présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec, explique que c'est la tempête parfaite pour que les gens se contaminent, puis qu'après ça, dans la période du jour de l'an, les gens soient encore plus malades. Le résultat, ben, c'est un taux d'occupation moyen sur civière qui a atteint 160% hier dans la région de Montréal. Il y a plein de centres hospitaliers qui ont même vu un taux d'occupation tourner autour des 200%. Dans la région de Québec, le pire qui semble avoir été évité, là, dans le sens où on parle beaucoup de la région de Montréal, mais on nomme pas nécessairement Québec. C'est sûr que c'est pas le paradis non plus, comme je disais tantôt, mais c'est moins pire que du côté de Montréal. Et un classique, Santé-Québec invite la population à appeler au 8-1 avant de se présenter aux urgences.
Avez-vous vu la parole aussi de Jean Charest hier dans les médias? Moi, je trouvais ça
quand
même
intéressant. Oui, par rapport au Canada et au dossier Donald Trump. Ah oui, vas-y, parle-nous de ça.
Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, mais tu sais, il parlait de l'opération militaire au Venezuela, effectivement, puis il a dit que les Canadiens devraient s'inquiéter. Et il a parlé aussi de l'unicité du Canada à peut-être prendre en compte dans le fait de se détacher de la force armée américaine. Pour lui, bon, on laisse aussi, on s'entend, là. Mais pour lui, on devrait revoir notre stratégie militaire, entre autres, l'opération démontre qui est impératif pour que le Canada réduise sa dépendance économique et militaire envers les États-Unis. On parle pas juste des tarifs maintenant. On parle aussi de la stratégie américaine, de la façon dont on veut se déployer sur le terrain, puis qu'on agit. Puis pour Jean Charest, c'est une démonstration de force qui confirme que la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis est pas celle sur laquelle on devrait se coller. Et qu'on effectivement ravive beaucoup la doctrine Monroe. Puis ça, je pense que tous les analystes, tous nos commentateurs, nos collaborateurs le disaient hier.
Exactement. Puis là, ben, on dit toujours qui est le suivant. Puis on parle du Groenland, on parle de la Colombie en raison justement des guérillas là-bas. On parle même du Mexique en raison du trafic de drogue.
Mais lui, il a aussi ramené les nombreuses fois où il a parlé du 51e.
Exactement. Il ne faut pas oublier le Canada. Canada, c'est ce que j'allais dire. Puis, sauf erreur, Max, là, corrige-moi parce que tu fais les nouvelles. Mark Carney, je suis très critique parce que j'y ai pas eu de résultat encore avec Donald Trump. Par contre, il est dans cette logique-là. Il est encore en Europe cette semaine.
Oui.
Il tisse encore des liens avec l'Union européenne. Il veut s'impliquer justement dans l'armement en Europe pour que le Canada puisse bénéficier aussi d'armement. Il est dans la diversification de l'économie. Donc, il est dans cette logique-là à l'heure actuelle. C'est juste que c'est une logique qui ne s'installe pas en 2-3 mois. Là.
Non, ça, ça fait une couple de mois, justement, qu'il dit qu'on est là-dedans. Là, c'est peut-être juste un petit rappel de plus de l'importance de tout ça. Avec Mark Carney qui est du côté de Paris présentement. C'est surtout pour jaser d'Ukraine. Mm-hmm. Mais on s'entend que quand tu te rends du côté de l'Europe,
je peux jaser d'autres choses aussi.
T'as des side quests. Là.
C'est ça. À Taverne, on fait pas juste jaser de hockey. On peut jaser des fois de d'autres choses. Puis Pascal, Mark Carney augmente aussi le budget militaire au Canada depuis son arrivée.
Oui.
Bon, d'un, pour répondre aux cibles de l'OTAN et faire plaisir à Donald Trump, mais aussi pour protéger le Grand Nord. Puis ici, on en bénéficie à Lévis avec justement des brise-glaces qu'on va concevoir ici à Lévis. Là.
On travaille aussi avec beaucoup, 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 beaucoup d'ampleur sur notre propre plan stratégique au niveau des finances. Je pense que pour Mark Carney, ça va être très difficile comme mandat parce que même s'il veut faire des changements, ça va paraître à petite goutte. Ça fait des années qu'on est en retard dans bien des choses, mais en même temps, c'est tough la politique, là. Tous les enjeux changent selon les années, selon avec qui on se pogne à l'international ou selon les pandémies qui arrivent et tout ça. Donc, les priorités, ils s'alternent. Mm-hmm. C'est jamais la même priorité ou presque d'année en année parce qu'on essuie toujours des coups qui arrivent un peu dans notre angle mort. Parfois, on a réussi à regarder dans l'angle mort juste à temps qu'on se fasse frapper, happer, mais parfois, non. Puis, on n'a pas beaucoup de prévisibilité puis de fonds de prévoyance ici. On s'est beaucoup appuyé sur les autres. Je ne sais pas si je vais être encore vivante pour voir un Canada différent.
Ouais.
Parce que ça va prendre des années.
Ah, ça va être à très, très, très long terme.
Pour essayer de commenter
le tout. Exactement. Mais au moins, l'avantage, c'est que là, il y a des pas qui se font dans la bonne direction. Le désavantage, c'est qu'on a quelqu'un présentement comme président de la Maison-Blanche qui est imprévisible dans toutes les sphères, que ce soit la sphère militaire, la sphère économique, la sphère géopolitique. Alors ça, pour encore, malheureusement, 3 ans. Ça reste un épée de Damoclès au-dessus de la tête du Canada. Il n'y a pas de doute dans mon esprit.
Les radars photos sont de plus en plus payants pour l'État québécois. La somme record de 133 millions récoltés a été recensée pour l'année 2025. C'est rapporté par la presse. À eux seuls, des radars photos mobiles déployés à environ 328 endroits ont permis d'engranger près de 97 millions. Somme bien plus élevée que les 65,6 millions pour 2024. Le chantier à l'entrée du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine sur l'autoroute 25 à Montréal, qui a été assez payant, merci, avec 15,3 millions rapportés en 2025, avec au-dessus de 40 000 contraventions. Il y a une moyenne d'environ 368 $ par amende quand même. Les revenus générés par les 25 radars fixes de la province qui ont été de 32 millions, sensiblement comme en 2024. À Québec, le radar fixe à l'intersection du boulevard Charest-Ouest et de l'avenue Saint-Sacrement reste dans les plus payants. Ça ne surprend personne. En septembre, Québec annonçait le déploiement de 200 radars photos supplémentaires dès 2026. Lévis franchit un cap démographique important en 2026 en dépassant pour la première fois les 160 000 habitants.
Je ne sais pas si avec le moratoire, les gens sont si heureux.
Ben, c'est une bonne question. Puis là, d'ailleurs, on sent que cette tendance-là, évidemment, va ralentir. Là, c'est parce que ça fait une couple d'années que ça monte beaucoup. On est arrivé avec le moratoire. On va continuer de construire à peu près 2000 unités par année jusqu'en 2027. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'après ça, ça risque de ralentir pas mal.
Parce qu'un des secteurs qui a augmenté le plus, c'est le secteur des jardins, je pense. Hein, puis c'est là que le moratoire a frappé.
Ben, c'est vraiment là. À 2,45 %, c'est énorme pour comme augmentation dans l'arrondissement des jardins. À Québec, c'est des chiffres dans le soleil en passant, là, on stagne pratiquement, croissance de 0,13 % pour atteindre un peu plus de 595 000 habitants.
Au sport, Max?
Yes, le Canada qui s'en tire avec la médaille de bronze au championnat mondial de hockey junior. Victoire de 6-3 face à la Finlande hier. Michael Hage, qui a été nommé parmi les joueurs du tournoi par les journalistes. Fait qu'assez bon pour être nommé d'un joueur du tournoi, mais pas assez bon pour être nommé d'un joueur du Canada par ses coachs. Et dans la Ligue nationale de hockey, plusieurs matchs. Quoi que je devrais vous dire que la Suède a gagné en passant le mondial junior.
Oui, la médaille d'or, en effet. Une première depuis 2012.
Par la marque
pays d'adoption.
Par la marque de 4-2. Dans la LNH, les Capitals qui ont eu le dessus 7-4 sur les Ducks d'Anaheim. Les Rangers qui l'ont échappé 3-2 en prolongation face aux Mammoths. Les Wings qui en ont gagné une grosse face aux Sens 5-3. Le Kraken de Seattle, victoire de 5-1 sur les Flames de Calgary. Et les Kings de Los Angeles, grâce à une belle performance de Darcy Kuemper, ont eu le dessus 4-2 sur le Wild du Minnesota.
Je me permets une petite parenthèse. Raptors, grosse victoire de 118-100 hier contre les Hawks d'Atlanta à domicile. Les Raptors ont 22 victoires et 15 revers depuis le début de la saison. Au quatrième rang dans l'Est, donc ça va très bien pour eux, sûrement un retour en série après 2 années à avoir été exclus.
Tu rappelles qu'il y a un ralentissement sur la 40 Est juste après Fossambeau à Saint-Augustin, on nous dit. Alors c'est par choc à 8 km/h dans ce secteur-là. Merci pour vos informations, 88-971-1021.
Après la pause, on parle avec le tireur d'élite canadien Wally de la situation qui prévaut présentement au Venezuela. On aura aussi le pit stop avec Denis Gravel. On va revenir sur l'héritage de Jean-Paul Lallier. Hier, c'était le 10e anniversaire déjà de son décès. Donc, un grand maire de Québec qui nous a quittés il y a de ça 10 ans. On va revenir là-dessus avec Denis Gravel parce que, somme toute, il y a un escalier dans le coin qui a rénové Saint-Roch, là, l'escalier du Faubourg. Il est tout rouillé comme le pont de Québec et il inquiète les résidents. Donc, on va parler de ceci dans le Pit Stop. C'est ce qui suit après cette courte pause. Wally et Denis Gravel, un duo de feu à Marceau le matin à Boulevard 102.1. Marceau